11h sur Europe 1. Les infos, Marguerite Lefebvre.
Il commence sa journée en Conseil des ministres, puis relira ensuite, pèsera le moindre mot de son discours. Le Premier ministre Jean Castex prononcera tout à l'heure sa déclaration de politique générale, sa feuille de route pour la suite du quinquennat. Emmanuel Macron en a dévoilé quelques aspects hier lors de l'interview du 14 juillet, notamment sur la relance de l'économie, sur l'aide à l'emploi des jeunes en particulier. Mais on aura donc d'autres détails tout à l'heure à 15h. Ce discours sera évidemment teinté d'une préoccupation, celle que l'épidémie ne reparte pas, ou du moins que cette reprise soit maîtrisée. On sait depuis hier qu'il va falloir ressortir les masques, les porter davantage. Ils seront obligatoires dans tous les lieux publics clos à partir du 1er août prochain. Il faudra donc y penser au moment d'entrer dans les magasins. Ce sont des portes que vous allez sans doute franchir à partir d'aujourd'hui, début des soldes d'été qui ont été décalés de 3 semaines cette année. Les commerçants avaient demandé à reconstituer un peu de trésorerie avant de brader leur stock. Les compagnies aériennes demandent aux voyageurs de l'aide et un peu de compréhension. Le patron de l'Association internationale du transport aérien, Alexandre de Juniac, s'est fait leur porte-parole ce matin. Les passagers demandent des remboursements, comme l'exige le droit européen. Les compagnies, aujourd'hui, leur demandent un geste, leur demandent d'accepter des avoirs. Un pompier a été blessé par balle hier dans l'Essonne. Il a été appelé avec ses collègues pour éteindre un feu dans le quartier de Guinette à Étampes. Mais une fois sur place, ils ont été la cible de tir. Ce pompier a été touché au mollet, la balle a traversé sa jambe. L'auteur du tir a pris la fuite. Au total, hier soir, la nuit du 14 juillet a été agitée, mais beaucoup moins que d'habitude. Une 60aine de personnes ont été interpellées en France. Des incendies ont été signalés, notamment en région parisienne, dans le 13e arrondissement, mais également à Suresnes, où un bus a été incendié. Deux alpinistes, une Française et un Néerlandais, ont fait une chute mortelle hier dans le massif des Aiguilles Rouges, c'est dans la vallée de Chamonix. Leurs corps ont été retrouvés ce matin, les Alpes endeuillées, car déjà hier, un randonneur s'est tué en chutant dans le massif du Chablais. C'est pas facile pour manger des tours sous des glaces, mais le masque est obligatoire depuis ce matin à Disneyland Paris. Le parc d'attractions a rouvert ses portes après 4 mois de fermeture. Les mesures d'hygiène sont donc renforcées sur place. Masque obligatoire à partir de 11 ans et jauge réduite. On termine avec les courses et les préférés de Thierry Léger pour le Quintet cet après-midi au Mont-Saint-Michel. Il n'y aura que 13 partants. Et Thierry vous conseille de jouer le 11, le 13, le 9, le 12, le 7, le 2, le 5 et enfin le 6. 11h03 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Anne Roumanoff pour Ça fait du bien.
Europe 1. Écoutez le monde changer. 11h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Roumanoff.
Très bel été à l'écoute d'Europe 1 jusqu'à midi et demi. C'est parti pour 1h30 de sourire, de bonne humeur avec Anne Roumanoff et toute son équipe. Ce sont les meilleurs moments de Ça fait du bien. Et le programme, il est chargé et très complet. Avant midi et demi, on retrouvera Perla Servan-Schreiber, Philippe Lachaud et Tarek Boudali, Imani. Mais tout de suite, place au comédien André Dussolier qui était venu nous parler de la pièce Novecento au théâtre de la Porte Saint-Martin.
Quand on vous a annoncé votre venue, André Dussolier, les femmes se sont pâmées quand même.
Oui, les femmes du public. Ouais. Elles sont
pas aussi belles d'habitude. Hein.
On se connaît depuis longtemps, c'est ma famille.
Vous êtes conscient de l'effet que vous faites aux femmes ?
Non, L'humilité.
Oui. Remettez vos culottes, mesdames, remettez-les.
Non, j'ai pensé que c'était mon voisin qui faisait que...
Ah non, moi, j'ai aucune emprise sur elle.
C'est bon.
Ah oui, vraiment.
Mais pourtant, vous avez créé des liens quand même, on sent bien quand même depuis un certain temps.
Des liens de sympathie, mais pas de séduction,
oui.
C'est pas pareil.
Mais j'ai jamais conclu avec Gisèle encore, moi.
Un comédien, André Dussolier, ça raconte des histoires, et une star, ça fait des histoires.
Ah, joli, belle différence. Je ne sais pas ce que fait une star, mais un comédien, oui, je préfère cette définition-là. J'aime bien, en effet.
Il paraît que vous êtes très sérieux sur les tournages et vous savez vos textes.
Ah, bah oui, c'est la moindre des choses.
Non, il paraît que vous êtes très consciencieux.
Oui.
On m'a dit que vous répétez après.
Oui, ça arrive, quelquefois, oui. C'est la première fois.
La scène est tournée, vous continuez de la répéter après.
Oui, ça va tellement vite, le cinéma. Je me dis, mais il ne peut pas être content quand même, parce que j'ai bien fait ça, bien fait ci, donc je me répétais la scène.
Vous êtes très perfectionniste.
Oui, ça passe si vite. Donc, alors le théâtre, c'est bien parce qu'au moins on peut renouveler l'expérience chaque soir et on peut améliorer encore des choses. Non, mais c'est ça qui est excitant, c'est que ce soit le mieux possible, quoi, évidemment. Voilà.
Alors André Dussolier, votre père était percepteur, il prélevait les impôts, votre mère était inspectrice des impôts. Oula. Vos parents n'avaient pas d'amis.
On va se si, énormément d'amis, parce que évidemment il y avait quelques enfants qui comprenaient pas très bien percepteur et qui disaient c'est le persécuteur. Bon, mais pas du tout, parce qu'il ne récoltait pas seulement les impôts, il délivrait aussi les pensions, les permis de chasse. Donc c'était vraiment sympathique parce que c'était dans un petit village et les gens ne pouvaient pas venir les jours de la semaine. Donc la perception était ouverte même le dimanche. Donc il nous remerciait en mettant des œufs sur le bord de la fenêtre. Enfin, non,
c'est sympathique. Du coup, pouvez-vous nous expliquer le prélèvement à la source?
Ah oui, alors non, j'ai un blocage avec les chiffres, hein, je vous préviens tout de suite. Avec, évidemment, j'entendais parler que de ça, donc je suis allé me réfugier dans les lettres.
Vous dites vos parents parlaient trop de chiffres, j'ai eu envie de m'évader dans les lettres.
Un peu, et dans la rêverie, et dans le sport, et dans autre chose en tout cas. Ouais.
Quand vous avez quitté le domicile familial, vous vous êtes senti comme un évadé fiscal?
Évadé un peu, mais fiscal non, parce que vraiment, ils ont continué à s'occuper de mes impôts et de mes parents. Et ils étaient les professionnels.
C'est pour leur faire plaisir que vous aviez additionné les films, multiplié les pièces de théâtre?
Non, c'est pour me faire plaisir à moi, vraiment. Mais quand je suis parti, non, j'avais vraiment envie de vivre cette passion à fond. Et puis, eux, ils avaient des échos un peu par les personnes, leurs amis, quoi, voilà.
Alors, n'empêche que c'était pratique pour déclarer vos impôts. Si vous aviez une question, on a tous des questions à poser aux impôts. Vos parents pouvaient vous renseigner rapidement, sauf s'ils n'étaient pas disponibles de 10h à midi et de 14h à 15h. Avec une permanence téléphonique de 8h à 8h15, c'est ça?
Non, ils continuaient à en parler à midi à table. Non, j'en pouvais plus.
Ah, c'est vrai?
Ils étaient passionnés.
Ils parlaient que de chiffres, P3, P4, etc. Ben, évidemment, ils faisaient le même métier, ils travaillaient dans le même bureau. Donc, évidemment, je baignais là-dedans.
Et vous étiez bon en maths ou pas?
Oui, le calcul mental, j'aimais bien ça parce que ma mère était assez vive, donc sur ce plan-là, donc enfin sur tous les plans, mais sur le plan-là.
Vous avez déjà eu un contrôle fiscal du coup?
Oui, j'ai eu un contrôle
fiscal. Ah bon?
Oui, j'ai eu un contrôle
mais
fiscal.
Mais vous avez pu attendrir en disant que
rien du tout. Mon père est venu à la rescousse, il est monté de sa province pour m'aider parce que j'avais gagné un prix et il y avait une somme d'argent et bon, on avait oublié de la déclarer.
Bien donc, sûr, bah oui, bien sûr. Bah oui.
C'est un prix.
Non, normalement. C'est vrai, oui, normalement, non, les gains à des jeux, normalement, ne sont pas imposables.
C'est
imposables.
Pas des jeux, normalement, c'est un prix.
Ouais. Et alors, votre père est venu vous aider?
Il est venu, mais ça a duré longtemps. Hein. C'est-à-dire que c'est là que je me suis aperçu quand même que les impôts, ils avaient des attachés de presse, des dossiers de presse absolument énormes.
Et moi, des balances.
Tout de ma vie.
Vous savez tout de votre vie?
Tout.
Et alors?
Ça a duré longtemps, on a fait connaissance, et puis finalement, il n'y a pas eu de redressement.
Et vous avez eu des parents réservés, André Dussolier, avec qui il fallait être réservé. Ça marche d'être discret quand on est comédien? Parce que vous dites que vous avez toujours refusé de courir les cocktails, d'aller flatter les gens.
Oui, ça doit venir un petit peu de cette nature-là. Mais en fait, j'ai souvent constaté ça chez les comédiens. C'était plutôt des gens timides et qui s'extériorisent quand ils sont en scène avec des rôles. C'est un petit peu le principe. J'ai l'impression que c'est une constante quoi, que j'ai remarquée. Mais j'aime bien les autres, hein, j'aime bien les réunions, mais pas forcément...
Vous n'aimez pas courir les cocktails?
Pas trop.
Non?
Non, pas trop. J'aime pas le champagne.
Ah bon?
Non, moi non plus.
On vous imagine mal faire des caprices de star, André Dussolier? C'est quelque chose que vous tolérez chez vos collègues ou qui vous agace?
Ça m'amuse.
Ah oui?
Oui, je sais pas. D'ailleurs, je sais pas quel genre de caprice c'est.
Là, vous avez quand même demandé un verre d'eau. Hein.
Oui, c'est vrai, limite, c'est énorme.
Dans un gobelet en plastique.
Ouais, je l'économise.
Je refuse rien, Dussolier. Hein.
En tant que fils de percepteur, j'ai pas encore tout bu. Hein,
vous dites, André Dussolier, que chez vous, la comédie, ce n'est pas un don, mais une seconde nature. Vous montez beaucoup dans la vraie vie?
Non, je suis beaucoup guéri de ça, mais au début, je pense, en effet, quand j'étais jeune, que le mensonge a été une échappatoire. Sûrement, je m'adaptais
à ce qu'on attendait de vous.
Oui, je pense.
Et après, vous avez menti aux femmes, aux journalistes?
Non. Ah non, parce que non. Moi, j'adore la vérité. Hein. J'aime beaucoup la vérité. Ça soulage. C'est bien de dire la vérité.
Vous pouvez mentir aux humoristes qui vous reçoivent sur Europe 1, aux femmes humoristes. Si vous me dites avec votre voix, Anne, vous êtes charmante, je peux vous croire sur parole?
Oui, mais tout le monde peut mentir. Aussi, je me méfie de ce que vous allez me dire là sur la. Sur
alors
phrase.
Dites-moi, Anne, vous êtes charmante. C'est pour mes archives personnelles.
Anne, il n'y a plus personne. Je peux vous le dire franchement. Vous êtes charmante.
Quel comédien! Quel comédien!
J'adore
le César du meilleur acteur! L'unanimité! Il n'y a pas eu besoin de voter!
Ah, magnifique, on y a cru!
Non, mais moi, la prochaine fois que j'ai un coup de mou, je m'en repasse votre voix.
Passez l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
Belle matinée à l'écoute d'Europe 1. Vous écoutez Anne Romanoff et toute son équipe. Les meilleurs moments de Ça fait du bien se poursuivent avec le comédien André Dussolier. Vous n'avez jamais donné des cours de comédie, André Dussolier?
Non, j'ai fait un remplacement comme... rapidement comme ça pour un, chez un professeur qui s'appelait Perry Moni, chez qui j'avais commencé. Mais non, ça ne m'a pas trop tenté. J'ai toujours, mais c'est comme un enfant un peu qui a envie de goûter tous les plats qu'on lui propose et qui a pas beaucoup de qui arrive pas à se poser quoi. Donc du coup les cours c'est beau, c'est un bel échange, mais ça, il faut prendre le temps.
Et vos enfants vous demandent des conseils?
Non
pas du tout.
De temps en temps ça vient un peu comme ça, de façon marginale, mais pas vraiment, pas direct. Ils ont envie de faire leur chemin, puis moi j'ai l'impression d'être déconnecté par rapport au monde aujourd'hui, et voilà, c'est plus les mêmes repères, les mêmes manières de procéder. Je pense que les jeunes aujourd'hui, chacun vit avec sa génération, donc je leur dis, mais mettez en scène, écrivez, rencontrez des gens avec qui vous pouvez créer des spectacles, voilà, ne pas être seulement dans l'attente et la posture du comédien.
Et vous avez déjà été dans l'attente du comédien?
Oui, bien sûr. Bah oui. Mais
3 jours.
Non, mais les choses, je sais pas, se sont enchaînées, voilà, par chance ou par. Et puis il y avait toujours un rôle que j'avais envie de faire, voilà.
Benach a des choses à vous dire, André Dussolier.
Oui, Anne, c'est un cadeau ce midi de recevoir André Dussolier. Quelle carrière immense pour réaliser ce portrait ce midi. Bah, j'ai commencé par compter le nombre de vos films dans lesquels vous avez joué depuis 1972, et bah beaucoup trop. Hein, j'étais à peine arrivé à la fin des années 80, j'ai fait un AVC. J'y arrivais plus. La filmographie d'André Dussolier, c'est l'annuaire du cinéma français. 118-218. Truffaut, Romer, Lelouch, Sautet, sans oublier bien sûr, on a parlé de vos 7 longs métrages avec Alain Resnais. André Dussolier, en fait, si demain on devait créer l'équivalent de la Pléiade, mais pour le cinéma français, vous squatteriez absolument tous les bouquins. Et si on faisait pareil avec les castings ratés, je squatterais tous les bouquins. Moi, c'est avec votre rôle dans Tanguy que je vous ai découvert, cher André Dussolier, un film que j'ai vu très jeune et qui m'a offert 2 résolutions. La première, je ne veux pas devenir Tanguy. La deuxième, je veux devenir André Dussolier. Alors, vous l'avez compris, le jeune comédien que je suis regarde avec émerveillement l'immense acteur que vous êtes. Mais petit bémol, le jeune homme que je suis regarde avec jalousie l'ancien compagnon d'Isabelle Adjani, que vous êtes aussi. En effet, monsieur Dussolier, dans cette émission, j'ai pris l'habitude de vaguement m'illustrer autant par mes phases textuelles que par mes phrases que sexuelles. Je ne pouvais donc pas omettre cette jolie parenthèse de votre vie qui a immédiatement sollicité mon aigreur. J'aime mon métier, hein, mais un simple regard d'Adjani, moi je l'échange même contre 3 Césars. Dans votre cas, pas besoin. Oui, parce que monsieur Dussolier, il les a aussi, les 3 Césars. Et avec ceci, un Molière, en vous remerciant. Alors pardon, j'ai bien conscience qu'aborder un pan de votre vie privée ce midi, c'est faire injure à votre légendaire discrétion. André Dussolier, ouais, c'est pas un people, adepte des vernissages et autres tapis rouges. Non, monsieur Dussolier, c'est un besogneux à la classe folle qui ne prend la lumière seulement quand le rideau s'ouvre. Merci de m'avoir écouté.
C'est beau. La classe.
Le quand même.
Moi, quand j'étais petite, je vous ai tellement adoré dans Un ours pas comme les autres.
Ah, c'est vrai?
Oui.
Ah, ça me fait plaisir que vous parliez de ça. Parce
nous, on
ne
connaît pas, évidemment. On est trop jeunes.
Ah, non, Un ours pas comme les autres. C'était une belle série de Nina Companese. Et oui, c'était. J'adorais ce personnage. Et en plus, c'était bien, ça venait à un bon moment parce que j'ai commencé au cinéma avec Truffaut dans Une belle fille comme moi. Et c'était l'époque où il y avait De Niro, tout ça, tous ces acteurs qui se métamorphosaient d'un rôle à l'autre. Et dans ce rôle, avec pour Truffaut, le film de Truffaut, j'avais des lunettes, des gants jaunes. Et donc j'avais l'impression quand même que dans la vie, tous les metteurs en scène qui me rencontraient s'attendaient à voir un gars avec des lunettes et des gants jaunes. Et donc du coup, Lina Companese, dans Un ours pas comme les autres, m'a donné des rôles que je jouais.
Le séducteur, sympathique,
voilà,
et drôle.
Sympathique et drôle, comédie. Vraiment bien. Ça n'existe plus, ça a disparu, ça. Un ours pas comme les autres, c'est impossible de remettre la main dessus.
Ah bon?
Ben non, je...
Moi, ça me dit rien, moi.
Ah oui, bah oui, mais oui, mais...
Ah, mais moi, j'adorais cette série. Léa Landau a des questions à vous poser, André Dussolier.
Oui, André Dussolier, dans Novecento, donc vous faites du piano, dans Ça fait du bien, vous ne faites rien d'autre que de répondre aux questions. Alors j'en profite, puisque je vous ai préparé une interview de pianiste à pianiste. J'ai pris des citations des pianistes les plus célèbres au monde depuis très longtemps, et je vais voir si elles vous correspondent, André Dussolier.
Jingle.
Alors, Ludwig van Beethoven disait « Seuls les cœurs purs font de la bonne soupe ». Êtes-vous un cœur pur, André Dussolier?
Ah oui, mais alors la soupe, je déteste.
C'est vrai?
Ah oui.
Vous n'aimez pas la manger ou la faire?
J'aime pas ni la faire ni la manger, enfin la manger surtout.
D'accord, un autre de Beethoven qui aurait aussi pu être une phrase d'Anne Romanoff. Beethoven disait « Ce qui compte dans l'effort, c'est avant tout l'action plutôt que le résultat. » Vous êtes d'accord avec ça ?
Ah oui, oui, complètement d'accord. Ouais. Oui, 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 oui. Surtout que lui, franchement, quand il a commencé, enfin, il a écrit même la 9e, il était sourd, et qu'il a, il s'est donné un mal de chien, vraiment, pour arriver au bout, et qu'il avait des instruments incroyables pour entendre les notes qu'il n'entendait pas. Enfin bon, bref, je passe les détails, mais c'est une aventure. Là, il était vraiment dans l'action, oui.
Alors, on change de pianiste, André Dussolier. Donc Mozart qui disait « Pour vous plaire, je vous sacrifierai volontiers mon bonheur, ma santé, ma vie. » Vous seriez capable de ça par amour, André Dussolier ?
Aïe ! Ah oui, oh là là ! Pour vous
ça veut
plaire,
dire non, ça veut dire
que,
non.
Oui, parce que je plaire, mon... c'est pas beaucoup, quoi. Ouais. C'est...
Juste pour séduire, lui, alors il fait passer son bonheur, sa santé, sa vie après l'autre.
Ah oui.
Ils étaient drôles quand même les pianistes de l'époque. Voici le suivant. Richard Wagner qui a dit « Il importe peu de descendre du singe, l'essentiel est de ne pas y remonter. » Ça vous arrive de trouver des gens bêtes, André Dussolier?
Ben moi-même, je le suis. Hein. Quand je suis confronté à ma bêtise, ça m'attriste. Mais bon, ça peut arriver, oui.
Alors voici un autre pianiste très célèbre. C'est Pascal Obispo.
Ah oui.
Qui a dit, c'est pas marqué dans les livres, mais le plus important à vivre, c'est de vivre au jour le jour. Et vous, vous êtes du genre à vivre au jour le jour,
oui,
André
Dussolier? Oui, j'aime bien ça. Ouais. Oui, Lucie, là, oui, cette chanson, en effet, qu'il a écrite, que j'ai chanté longtemps, à répéter comme ça, sans arrêt, ses paroles et cette chanson, tout seul chez moi, vous inquiétez pas. Donc, profitez de la vie. Moi, je me suis toujours pris un petit peu, ou du moins, je me suis projeté dans l'existence des papillons, un peu éphémères, qui naissent le matin, qui meurent le soir et qui profitent et qui butinent comme ça.
Ça, c'est un truc pour dire aux femmes, je ne veux pas m'investir.
Ah, c'est vrai.
On vous l'a fait le coup du papillon.
On lui a fait le coup la fois. Papillon, allez, retombe butiner.
Non, rien à voir, je ne pensais pas à ça du tout.
Non, c'est grillé, non. C'est grillé, il faut trouver autre chose.
Vous pensez au côté éphémère des choses et que ça passe
vite,
c'est ça?
Oui, de profiter de la vie, c'est-à-dire que j'ai un peu de la mémoire, mais enfin, ça dépend, hein, sauf pour les textes à 20h seulement, mais le reste, la mémoire, j'aime bien la vie qui recommence chaque jour, quoi, et qui fait que c'est une aventure. Ça peut être une aventure aussi avec la même personne, Anne, charmante.
Elle n'y croit plus. Elle est... Tiens, bah pour finir, alors, une question, on reste dans le piano. Un conseil pour les femmes de 50 ans qui voudraient avoir une touche?
J'adore les femmes de 50 ans, mais bah oui, bien sûr, parce que tout d'un coup, j'ai l'impression d'avoir le même âge qu'elle.
Merci André Dussolier.
Passez l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
Jusqu'à midi et demi, tout l'été, sur Europe 1, c'est le programme Sourire, Bonne Humeur avec Anne Roumanoff et toute son équipe. Les meilleurs moments de Ça fait du bien se poursuivent dans un instant avec la chanteuse Imani. Mais avant cela, voici Christine and the Queens, la marcheuse sur Europe 1.
Je vais marcher très longtemps et je m'en vais trouver les points qui redessinent. Je vais chercher le et hautement les coups portés sur moi, la violence facile. Je vais marcher tout le temps et je m'en vais forcer les regards agressifs. Tout
m'en suis fait, je vais m'en défaire. À la blessure, c'est plus rien. J'ai connu pire, j'ai connu la honte. Je vais marcher très longtemps et je m'en vais trouver les ponts qui redessinent. Je vais chercher et hontément les coups portés sur moi, la violence facile. Je vais marcher tout le temps et je m'en vais forcer les regards agressifs. Je vais toujours au devant, il me tarde de trouver la violence facile.
La Marcheuse avec Christine and the Queens sur Europe 1 pour les meilleurs moments de Ça fait du bien avec Anne Roumanoff et toute son équipe qui ont reçu en novembre dernier Imani pour son coffret Imani Live at the Casino de Paris. C'est sorti en octobre.
Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas bien Imani, c'est ça.
And you will never know.
Mais c'est aussi ça. Non mais une voix pareille avec un physique comme le vôtre, c'est la concurrence déloyale, Imani. Vous êtes né à Martigues, Imani, d'une mère au foyer et d'un père pompier dans l'armée de l'air à Istres.
Oui.
Et vous étiez une famille de 7 enfants.
C'est ça.
Et vous dites l'armée a vraiment fait partie de ma vie. Vous avez été envoyé en école militaire à l'âge de 10 ans.
Oui.
Et avec vos 6 frères et sœurs, vous dites « Mon père nous a élevés comme des soldats. À la 3e sommation, il nous réveillait avec un seau d'eau. »
C'est vrai.
C'est ce que je sais pas. Non, mais par rapport à la vie que vous avez, ça paraît bizarre que vous ayez une enfance comme ça, élevée à la baguette.
Ah oui, oui. Là, c'est juste la version sympa pour pas que mes parents passent pour des tortionnaires horribles. Mais...
Vos deux parents sont nés aux Comores, Imani. Vous dites je viens d'un milieu assez traditionnel comorien. Pendant longtemps, je pensais que j'allais avoir mon petit boulot, mon petit mari, mes petits-enfants, que j'allais faire à manger tous les soirs, que c'était ça la vie d'une femme. Ça, c'était la vie d'une femme en 1920, Imani.
Mais il y a beaucoup de choses que je fais quand même.
Ah, vous le faites ? C'est vrai ?
Ouais, bah, répétez mes petits-enfants.
Mon petit boulot, mon petit mari, mes petits-enfants, j'allais faire à manger tous les soirs.
Bah, c'est ce que je fais.
C'est vrai.
Exactement ce que je fais. Et quand je suis pas là, je congèle. Du coup, bah, ils ont à manger quand je suis pas là. Non, mais ouais, mais finalement, merde, c'est la vie que j'ai.
Vous avez pratiqué en plus l'athlétisme de 9 à 19 ans au niveau national, notamment du saut en hauteur. Vous sautiez à quelle hauteur ?
1,78.
C'est énorme.
Non. Oui, pour des gens qui font pas du saut en hauteur, mais pour ouais, c'était pas mal.
Bah moi, je crois
ouais.
Qu'au lycée, ouais, j'ai jamais dépassé 65 cm.
Ah non, ça c'est pas possible. C'est plus bas que le tapis. C'est pas possible.
Qu'est-ce que vous avez gardé de vos entraînements sportifs, Imani? La rigueur, l'hygiène de vie, les muscles, l'esprit de compétition, le mal au dos?
Ouais, tout ça.
Tout ça?
Et puis aussi l'esprit d'équipe. C'est ça que j'aime dans le sport. C'est-à-dire vraiment ce qu'on peut être motivé par quelqu'un qui est meilleur. Enfin, vraiment, l'esprit d'équipe, c'est ce que j'aime. Et pareil pour l'école militaire, par ailleurs.
Vous dites, j'imagine qu'entre votre passé de grande sportive et l'éducation militaire, il ne faut pas vous embêter dans la vie, Imani. Sinon...
Ah non, moi je suis une fille sympa quand même, mais c'est vrai que...
Quand même, c'est le quand même qui fait peur.
Quand même, en fait,
je lui comment elle est en train de dire, elle est pas drôle, elle est machin. Mais non, mais je suis une fille sympa, je sais pas, faut pas m'embêter.
Voilà, c'est ça.
Mais c'est pas une démocratie.
À 17 ans, vous êtes remarqué dans la rue, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et on vous propose de devenir mannequin.
Oui, c'est ça.
Et là, vous appelez votre père. Et il est en mission au Kosovo et comme la liaison téléphonique n'est pas bonne, il ne comprend pas ce que vous lui dites.
Il ne comprend pas bien, oui.
Et il vous dit oui.
Ouais.
C'est génial. C'est pratique, hein.
Et du coup, vous partez à New York.
En plus, je sentais bien dans la manière qu'il n'avait pas compris, mais je me suis dit, tente pas ta chance.
Il n'insiste pas, il a dit oui, il a dit oui. Exactement. Là, vous partez à New York et là, vos parents, ils ont dû un peu paniquer. Leur fille qui part à 17 ans à New York.
Bah non, ça ne s'est pas fait comme ça. Au début, il arrive et puis en fait, il se dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Bah, je vais en casting. Donc, j'ai quand même mis 2 ans hein, entre le moment où j'ai dit oui au mannequinat et et New York. Et donc, j'ai fait beaucoup de shows, de défilés à Paris. Et je continue l'école. De toute façon, il était hors de question que je n'ai pas mon bac. C'était l'année du bac. Mon père, il m'aurait tué.
Il y aurait eu plusieurs seaux d'eau sur la tête.
Et puis, glacé. Non. Et en fait, je suis partie à New York. J'en avais plutôt 19 ans. Là, mais ça ne s'est pas super bien passé non plus, même à 19 ans. Mais à 19 ans, vous avez votre bac. Vous êtes plus ou moins à la fac.
Vous quittez l'univers de la mode pour la musique. Ouais. Pourquoi vous aviez arrêté d'être mannequin? Parce que ça marchait moins? Parce que...
Vous savez, en même temps, c'est la mode qui vous arrête. Hein. C'est pas vous qui décidez d'arrêter la mode. C'est un truc hyper éphémère. C'est sur la jeunesse. Quand vous avez 25 ans, c'est comme les chats, quoi. C'est comme si vous aviez déjà 70. Hein. C'est la fin. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vraiment vrai. C'est pas... Elles sont rares, les filles qui arrivent à être mannequins au-delà de 30 ans. Elles existent, mais c'est pas la norme. Et donc déjà, je travaillais moins. Il y a eu le 11 septembre, j'étais à New York, c'était compliqué, il y avait moins de travail. Moi, j'étais quand même un mannequin de classe moyenne, j'aime bien dire.
J'étais pas... pas top modèle.
Voilà. Il y a les top modèles, il y a les tops, et puis il y a les juste celles en dessous, celles qui travaillent, qui arrivent, et puis des fois, elles ne travaillent pas. Et donc, quand il y a des crises comme ça, et ben, celle-là, elle ne travaille plus. Et c'était compliqué. Donc
vous êtes revenu à Paris?
Ouais,
et là, vous faites plein de petits boulots pour survivre.
Ouais, à New York d'abord, ouais. Parce qu'il ne fallait pas que je rentre sans rien. Là, mes parents, ils ne m'auraient pas raté.
Vous rentrez à Paris, vous commencez à chanter dans les bars, et là, on vous remarque.
Ben oui, ça ne s'est fait pas exactement comme ça, mais en fait, j'étais avec ma sœur à l'époque. On a écumé plein de bars, plein de choses comme ça. On a essayé de démarcher les maisons de disques, et puis il y a eu un producteur qui était intéressé, qui nous a suivis. Et puis au départ, il y avait 5-6 personnes qui venaient, c'était tous mes frères et sœurs. Et puis... et puis après, il y en a eu 20, et puis 30, et puis 200. Et puis ce qui s'est passé, c'est que je pense que c'est ce qui a plu aux producteurs. C'est notre façon de ne pas lâcher, de travailler. Et puis on s'est fait signer.
Et alors, votre famille porte quel regard sur votre réussite, Imani?
Moi, je pense qu'ils sont fiers. Mon fils, qui a 4 ans, il pense que toutes les mères, elles chantent. Alors, il va voir les gamines et leur demande « Elles chantent quoi, ta mère ?» C'est assez drôle. Mais ils sont fiers et... Mais parce qu'ils savent aussi le travail que ça m'a.
Et vous êtes fière de vous, Imani?
De plus en plus. Je suis contente pour moi. En tout cas, je suis fière pour la petite fille qui voulait faire de la musique quand elle était toute petite et à qui on a dit tu rêves. Et finalement, j'ai bien fait.
Vous écoutez Europe 1, vous êtes au cœur des meilleurs moments de Ça fait du bien avec Anne Romanoff et son équipe qu'on retrouve dans un instant avec deux comédiens, Philippe Lachaud et Tarek Boudali. Mais avant cela, voici la rumeur de Calogero.
Kiosque. Elle peut faire passer ton père pour un tox. Courez, elle prend de l'ampleur. Elle tourne autour de toi, la rumeur. Elle court de bouche en bouche, de porte en porte. Tu appuies sur une touche et elle s'exporte. La rumeur. Un poste à midi, un flash à 20h. C'est un chuchotement dans un haut-parleur. Déjà de toi, la rumeur. Quel gâche.
La rumeur, Calogero sur Europe 1 pour les meilleurs moments d'Anne Roumanoff. C'est le programme jusqu'à midi et demi avec toute son équipe. Et ils ont reçu deux comédiens. Attention, ça va déménager. Philippe Lachaud et Tarek Boudali venus présenter le film Nicky Larson et le parfum de Cupidon sorti en février de l'année dernière.
Vous êtes super amis depuis 15 ans, 16 ans
Plus,
18 ans. Et même Philippe et Julien, depuis encore plus longtemps, ils se connaissent depuis qu'ils ont à peu près 7
ouais,
ans. Vous vous rendez compte, c'est passé, vous avez fait un BTS force de vente, c'est ça, Tarek Boudali.
Ouais.
Et là, vous rencontrez...
Ça a bien marché. Hein.
Là, vous rencontrez Julien Arruti qui vous présente Philippe Lachaud.
En fait. En fait, moi, je voulais faire comme Philippe depuis que je suis gamin. Je voulais être comédien et j'avais pas d'argent pour me payer une école de théâtre. Et puis j'avais fait un deal avec mon père.
Et vous filmiez votre sœur dans la cave.
Ouais, c'est ça. Non, pas dans la cave. Quand même. J'habite en cité, donc là, ça
fait chelou.
Le juge, qu'est-ce qu'il dit là ?
Non, je la filmais quand on était en vacances et tout ça au Maroc. Ouais, je la filmais. Vous êtes bien renseigné.
Mais elle devait faire des choses spéciales quand vous la filmiez, votre sœur.
Dans la cave.
Non, mais je veux dire, vous la filmiez en train de faire quoi ?
Ben dans la cave.
Je faisais des petits scénarios. Genre à un moment, elle était en prison. Après, je venais la délivrer.
Et,
après...
et elle fait quoi, votre soeur, maintenant?
Elle est en psychiatrie. Là. Elle attend les soins intensifs. Et
elle travaille ça va dans mieux. Un service financier du groupe Clarence.
Ah, bah, j'étais pas loin.
Ça l'a pas marqué, ça va?
Non, ça va. C'était la tête de la famille. Donc voilà, moi, j'ai fait un deal avec mon père. Je lui ai dit, écoute, je fais un diplôme un peu passe-partout. Je me lance et puis si ça marche pas, au moins je retombe sur mes pieds. Je deviens commercial.
Voilà. Donc vous faites ce diplôme force de vente et là vous rencontrez...
Je rencontre Julien.
D'accord.
Et on devient pote très vite. Et puis il sait que j'ai envie d'être comédien, etc. Et tout. Il me dit, putain, il faut que je te présente mon meilleur ami, c'est Philippe.
Dans un restaurant asiatique.
Ouais. Bravo.
Pourquoi dans un restaurant asiatique?
Parce qu'on n'avait pas d'argent.
Donc un restaurant asiatique pourri alors en fait.
Ouais, c'était un restaurant à côté de chez eux. On était là-bas, mais il était très bon. Il était
à côté
bon.
Où ça
bon. À la Salle Saint-Cloud. D'accord. On vient de la Salle Saint-Cloud.
Ça va, la Salle Saint-Cloud, c'est quand même un peu...
Ah ouais, non, on est très contents.
Vous êtes plutôt un fils de bourgeois, Philippe Lachaud.
Ah, pas du tout, non.
Non,
non, non, classe très moyenne. Même la première caméra, mes parents très jeune, mes parents m'ont offert une caméra, mais ils n'avaient même pas l'argent pour me l'offrir. Du coup, ils ont emprunté les sous à la famille Dugimon. À la famille Dugimon, que je remercie et que j'embrasse, ils nous écoutent. Et donc voilà, ma mère était couturière, mon père travaillait dans les assurances. Voilà, on aimait d'habiter dans une résidence avec des bâtiments. Et Julien habitait la même résidence. C'est pour ça qu'on se connaît depuis petit.
C'est fou ça d'être amis depuis si longtemps.
Oui.
Et vous, Tarek, quand vous avez rencontré Philippe Lachaud, c'était le coup de foudre amical tout de suite?
Ouais, il m'a touché les fesses. Direct.
Pas qu'amical.
Ouais, il me touchait les fesses. Il venait comme ça, il mettait des mains aux fesses.
J'ai pas compris, gens, ils vont croire que
c'est vrai. Mais c'est vrai en plus. Ah, ouais. Pas, au laser game et tout. Tu me mettais des mains aux fesses et tout, tu me claquais les fesses comme ça.
Mais je n'ai aucun souvenir de ça.
Je te jure que oui.
Bah lui, oui,
c'est vrai parce qu'en plus, sa mère pense réellement que je suis amoureux de son fils, mais la vérité c'est que c'est lui qui est amoureux de moi. C'est-à-dire que dès la première fois qu'on s'est vu, coup de foudre, il m'a mis des mains aux fesses.
Et le premier film de Tarek, c'est quand même, ça s'appelle quand même Épouse-moi mon pote, on demande en mariage.
Ouais, c'est ça.
Donc, s'il vous plaît, il y a un petit indice quand même.
C'est ça. Comment ils ont pris ce film, vos parents, Tarek, parce que vous venez d'une famille traditionnelle quand même. Épouse-moi mon pote.
Mais ils sont très ouverts.
Ouais.
Non, ils l'ont très bien pris. Ils étaient très fiers de moi. Et
ça avait fait combien d'entrées ça?
2,5 millions.
Oui, donc ils sont très contents, ils sont très fiers, les parents.
Non, mais là, en fait, où ils sont encore plus fiers, mes parents, c'est qu'une fois, et ça m'a marqué, ma mère m'a dit, là où je suis le plus fier de toi, c'est que tu m'as jamais ramené la police à la maison. Voilà, comme j'ai grandi en cité, etc. Et tout, c'est,
ça aurait pu.
Voilà, ça aurait pu, donc...
Et un petit copain, ça lui dérange pas.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, vous avez commencé à la télé, sur Fun, vous avez animé des émissions, et il y a eu un moment où tout le monde vous voulait, vous étiez à la mode, c'est la bande à Fifi, vous étiez chez Denisot, Canal+, et il y a eu un moment où il y a eu...
On ne voulait plus.
Le creux de la vague. Il y a eu un an et demi très difficile, en fait.
Ouais, plus même, plus qu'un an et demi. C'est vrai qu'on arrêtait le Grand Journal, on avait signé un film.
Ouais.
Parce que nous, ce qu'on voulait faire depuis toujours, c'était du cinéma. Et voilà,
une parodie de Titanic.
Ouais, on s'est dit, quel est le film qui a le plus marché de tous les temps? C'est Titanic. Mm-hmm. Et donc, on s'est dit, on va faire une parodie de Titanic. C'est des copains qui partent en croisière et ils font couler le bateau. Et on s'est dit, c'est très marrant. Sauf que, voilà, grosse déception, les producteurs nous ont dit, le film est trop cher. Vous n'avez jamais fait de cinéma, vous ne pourrez pas. Et nous, en même temps, on disait, mais c'est comme les boîtes de nuit. Tu peux pas rentrer si t'es pas habitué, mais en même temps, si tu rentres pas, tu seras jamais habitué. Donc voilà, on a eu plusieurs projets de cinéma qui sont pas faits. Donc on a commencé à connaître une période de galère. On se posait beaucoup de questions, notamment avec Tarek.
Le problème d'argent, vous avez vendu votre voiture.
On avait plus d'argent, voilà, c'est ça. On se disait, peut-être on va tout arrêter parce que ça a duré des années, hein, plusieurs années.
Et vous avez raté, vous, le casting de Scène de ménage pour faire le petit ami d'Audrey Lamy. Ça a été dur aussi, ça.
Oui, parce qu'on se dit, j'ai peut-être un petit trou de secours, une petite bouée de sauvetage, etc. Et puis ça se plante. Et puis c'était une accumulation de choses. Voilà, comme dit Philippe, il y avait rien qui marchait à ce moment-là.
Et donc à ce moment-là, on se dit, on va tout arrêter.
arrêter, quoi.
Bah, c'est vraiment poser la question. C'est là la force d'être plusieurs, c'est-à-dire qu'on essaie de se remonter le moral, de serrer les coudes. Et du coup, l'idée de Baby Sting est venue comme ça. En fait, c'était pour des contraintes économiques. On s'est dit, si
vous
on
avez fait
avoir...
beaucoup de caméras subjectives, en fait, c'est
bah,
ça.
En fait, pour... c'est ça. On s'est dit, si on veut avoir la chance de faire un film, c'est nous qui interprétons
cher,
les rôles principaux, il faut faire un film pas cher. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de Baby Sting.
Et du coup, il a coûté combien d'argent, Baby Sting?
Bah, je crois que c'était aux alentours de 2 millions. Alors, ça représente beaucoup d'argent, 2 millions.
Ouais, mais dans pour le cinéma, film, c'est
pas grand chose. Et il a rapporté combien d'argent?
Alors,
100 millions.
Comme Star Wars, ouais. Non, mais en tout cas, il avait été le film le plus rentable de l'année.
Bien
c'était
sûr.
Le film le plus rentable de l'année. Donc nous, bah, voilà,
et après, vous devenez les rois du pétrole, parti. Tout le monde vous mange dans la main. Tout le monde.
Bah, c'est marrant parce qu'après, on nous a demandé de refaire les films qu'on nous avait refusés avant.
Bah ouais, c'est toujours comme ça.
C'était rigolo, mais c'est le jeu, c'est normal. C'est vrai qu'on n'en veut à personne du tout. Nous,
non, mais combien de temps vous avez mis à faire babysitting quand même?
Tourner
Non, à le faire, c'est-à-dire de la première étape d'écriture.
Ah, c'était très long, c'est des années.
Personne ne le dire parce que
personne voulait faire le film. Voilà, et jusqu'au jour on est tombé sur le producteur qui nous a fait confiance.
Il le regrette pas d'ailleurs.
Non, il est content. Bah, c'est avec lui qu'on fait Nicky Larson aussi aujourd'hui. Donc c'est une belle histoire. Ouais. Bah, c'est Marc Fishman, Christophe Servonier. Voilà, on les remercie. Parce que c'était des tout petits producteurs. Hein. Quand ils m'ont reçu dans leur bureau au début, je ne croyais même pas qu'ils étaient producteurs, moi. Je suis arrivé, les fenêtres, elles étaient pourries, il n'y avait pas de chauffage. Je dis,
mais c'est toujours les mêmes bureaux, hein, c'est ça le problème.
Ouais, oui, par contre, c'est vrai.
Après 4 succès,
ils ont toujours les mêmes bureaux.
Il n'y a pas de chauffage, rien.
Au moins, ils ne mettent pas l'argent dans les bureaux, ils les mettent dans le film.
Ouais, c'est vrai.
Passez l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
Le programme cet été sur Europe 1, il est simple. Musique, sourire, bonne humeur. Jusqu'à midi et demi, ce sont les meilleurs moments d'Anne Roumanoff avec son émission Ça fait du bien, entourée de toute son équipe. Toujours avec Philippe Lachaud et Tarek Boudali. C'est la suite dans un instant après Don't Be So Shy d'Imani.
Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why. So much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, here so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. We'll be right back.
Be So Shy, Imani sur Europe 1 pour le meilleur d'Anne Roumanoff, toujours entouré des comédiens Philippe Lachaud et Tarek Boudali.
Alors Philippe Lachaud, vous avez pris 8 kilos de muscles pour le film, c'est ça? En mangeant des œufs tous les matins?
Oui, donc si vous me le demandez, c'est que ça ne se voyait pas. Oui, non, j'ai, en fait, comme c'est une adaptation d'un personnage qui était assez costaud, je voulais lui ressembler un minimum. Et effectivement, j'ai suivi un programme alimentaire, un programme sportif, et j'ai pris 8 kilos de muscles pour le film.
Et des protéines ou pas?
Bah ouais, à fond. Ouais. C'est à base de 6 œufs le matin, c'est 5 repas par jour. Ouais, non, c'est compliqué. Et la galère, à la limite, c'était même plus de les manger à la fin, c'était de les faire. C'est une galère, se lever, faire de la cuisine.
Mais ouais, vous faisiez 6 œufs en omelette tous les matins?
Ouais, tous les matins. Tous les matins pendant 8 mois.
Waouh! Ouais. Et du sport.
Ouais. Et du sport, et voilà. Et
mais
tous les jours,
pas
tu manges du
vous êtes épaissi là ou bien?
Non, mais il a perdu.
Vous avez arrêté les œufs.
En fait, c'est. Ah oui, oui. Dès que le tournage était fini, j'ai arrêté, oui. Oui, c'est ingrat en plus la musculation. C'est-à-dire que si on arrête, j'ai des petits restes, mais voilà, j'ai perdu beaucoup quand même. Mais ça se voit à l'image quand même.
Ouais.
Et parce que je suis content quand on me dit, mais c'est des effets spéciaux dans le film. Et non, mon gars, j'ai poussé de la fonte.
Oui. Vous avez appris aussi à vous battre, à vous servir d'une arme. Est-ce que ça vous a changé mentalement? Parce que maintenant, par exemple, vous avez peut-être moins peur quand vous êtes dans une ruelle sombre.
Pas du tout. Ça reste un lâche.
Ça reste un lâche.
Ah, pour de vrai. Alors lui, c'est le mec Philippe le plus lâche du monde. Et c'est ça, en fait. C'est qu'en fait, il avait vraiment ce fantasme, je pense, d'interpréter ce rôle de super héros. Mais en vérité, c'est le plus lâche du monde. Et je peux raconter plein d'anecdotes à ce sujet, si vous voulez.
Hein. Ah oui, oui, allez-y, allez-y.
Ah, bah, comme vous me demandez, bah, quand je vous en...
Il va raconter l'histoire de Julien avec le chien, j'imagine.
Oui.
Oui. Bon, j'en suis pas fier.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais on était chez un ami, voilà, qui avait une petite maison avec une cour, et il avait un chien méchant. Et c'est vrai qu'on avait un ami qui s'appelait Guillaume, et qu'on taquinait avec Julien. Et il arrêtait pas de nous dire, les gars, si vous continuez, j'attrape Tyson. Donc c'était son chien, un gros boxeur, et il dit, je vous lâche dessus. Sauf qu'on continue à le taquiner. Il dit, ok. Donc il attrape son chien Tyson. Avec Julien, on détale, on part dans la cour, parce qu'il y avait le portail ouvert à la fin. Donc on court, on veut s'échapper. Il attrape le chien, il dit, c'est qui ça? C'est qui? Donc il chauffe le chien et il lâche le chien. Et là, Julien, on se regarde, vision de terreur, on a peur des animaux, mais un truc de fou. Et Julien, on court le plus vite possible. Sauf que moi, je suis premier quand je cours. Et là, je passe le portail qui est ouvert et j'ai un réflexe horrible, c'est-à-dire que je tends le bras et j'attrape le portail que je ferme.
Oh, c'est horrible!
Derrière moi, c'est horrible.
Le bon pote.
C'est horrible. Et là, je ferme le portail et je me retourne et je vois la tête de Julien en train de courir. J'ai cette image de lui en train de courir au ralenti avec les yeux écarquillés en train de se dire, mais pourquoi tu as fermé le portail? Et là, je vois Julien sauter comme Superman, ce genre de saut. On sait comment on saute, mais on réfléchit pas à comment on atterrit. Et le pauvre, il s'est éclaté. Mais on s'est pas fait manger par le chien.
Mais c'est fou cet ami là qui vous a.
Oui, il est un peu fou.
Et Philippe, il vous a pas choqué en fait là.
Non.
On parle de l'ami, mais Philippe, non, il vous a pas choqué.
C'est un réflexe terrible.
C'est un instinct de survie.
C'est un instinct de survie. On ne fait pas exprès. Ouais. Donc ce n'était pas de ma faute. Voilà. Merci. Et désolé, Julien, pour ton saut de Superman.
Et non, et vous, Tarek, vous êtes pas lâche. Vous êtes plutôt du genre à vous battre.
Ça dépend.
Quand il y a une.
Mais lui, des cafards. Tarek, il a la phobie des cafards.
Franchement, j'ai peur de rien, sauf des cafards. Mais vraiment de rien, j'ai peur de rien.
Tarek Boudali, c'est rigolo parce que vous avez.
Là, c'est la vacherie. Moi, je la connais bien, ça sent la vacherie. Là. Quand elle commence par c'est rigolo et qu'elle se mord de rire.
C'est pas ça.
Ça sent pas le compliment.
C'est pour
allez-y.
Quelqu'un qui fait rire, vous avez un petit air tout le temps un peu triste, un peu mélancolique.
C'est parce que vous lui posez pas de questions
vous
en fait.
Vous êtes pas la première à me dire ça.
Allongez-vous.
On dit que j'ai un petit côté mélancolique dans mes yeux.
Oui, c'est ça.
Tarek est. Non, je suis d'accord, c'est vrai, Tarek. Et je pense un des mecs, voire le mec le plus drôle que je connaisse. Et c'est vrai qu'il a d'autres facettes où des fois il est un petit peu comme ça, un petit peu mélancolique. Des fois, enfin peut-être un peu rêveur aussi. C'est...
Et en même temps, vous faites très bien le dinosaure.
Ça
va bien marcher à la radio, ça.
Non, avant, je faisais beaucoup le dinosaure. Je l'avais fait la première fois à l'anniversaire de Philippe à Vavigny.
Ouais.
Et après, on l'a intégré dans notre spectacle au Splendide, Qui a tué le mort. C'était produit par Dominique Farrugia. Et après, on l'a fait dans Babysitting.
Et toutes les avant-premières qu'on fait maintenant, tout le monde lui dit le dinosaure.
C'est vrai.
Et là, il a un plan sur Jurassic Park 5. Du coup,
trouvé d'autres animaux depuis, Tarek Boudali ou c'est...
Ah, j'en ai fait pas mal, mais là, j'arrête un peu les animaux, du coup.
Ah,
parce
ouais
que, ouais, à force de les faire aux avant-premières, au bout d'un moment, c'est...
À chaque avant-première, on vous demande.
Ouais, ouais. Chaque fois. À chaque fois. Des fois, on arrive, on dit pas bonjour. Hein. On dit pas bonjour.
Le dinosaure.
Et d'un ils se trompent. Des fois, c'est très vexant. Ils disent le chameau.
Passez l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
Les titres du journal de Midi et Demi, c'est avec vous François Claus. Bonjour François.
Bonjour Anissa, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et à la une du journal, ce qui était traditionnellement l'un de nos grands rituels de l'été, les soldes. Je dis traditionnellement car c'était avant le Covid, c'était avant l'émergence d'un nouveau monde, notamment dans ses modes de production et de consommation. Des soldes avec masque, dans un contexte de stock démesuré, très compliqué pour les commerçants. Nous serons dans un instant dans un grand centre commercial de Paris. Et nous entendrons dès l'ouverture du journal le sociologue Philippe Moati qui scrute l'évolution de nos modes de consommation. C'était la fête, en revanche, ce matin du côté de Disney qui, après 4 mois de fermeture, ouvre enfin ses portes au public. On sera loin, bien sûr, cet été des 70 000 visiteurs quotidiens, mais c'est bel et bien une grande bouffée d'oxygène pour toutes les communes, notamment de Seine-et-Marne, qui vivent en grande partie des subsides générés par l'expert Picsou. Entre autres, une page politique très dense dans Europe Midi à 3 heures du grand oral de Jean Castex devant les députés de la Nation. Si le président a fixé hier les grandes lignes dans son intervention du 14 juillet, c'est au Premier ministre aujourd'hui de convaincre les élus et la Nation donc sur la manière de les appliquer. On essaiera de comprendre également dans le journal tout à l'heure pourquoi la justice européenne ce matin a finalement exonéré le géant Apple de reverser 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux jugés indus par la Commission à l'Irlande. Nous serons en ligne avec Isabelle Horry, notre correspondante à Bruxelles. Nous nous interrogerons également sur l'existence d'un mystérieux gang de tueurs de chevaux qui sévit, semble-t-il, depuis un peu plus d'un an, notamment dans l'ouest de la France. Et nous irons faire un tour à la Cinémathèque pour rendre hommage à l'une des icônes de la comédie à la française, un certain Louis de Funès. Voilà Anissa pour le sommaire. Rendez-vous dans une demi-heure pour le journal.
Eh bien, rendez-vous à midi et demi. François Claus, nous serons avec vous. Évidemment, tout de suite, c'est le meilleur d'Anne Romanoff.
11h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
La matinée se poursuit sur Europe 1 jusqu'à midi et demi avant de retrouver le journal de la mi-journée. Eh bien, c'est Anne Romanoff qui vous accompagne avec les meilleurs moments de Ça fait du bien. Anne, entourée de son équipe, évidemment, très en forme, et de leur invité, Perla Servan-Schreiber, qui a publié en septembre dernier un livre de recettes, Les recettes de ma vie, aux éditions Flammarion. Vous êtes tellement rayonnante.
Ah oui.
Je ne m'en remets pas.
Non, voilà. Mais c'est vrai, on est tous sous le charme.
Oui. D'abord, parce que je suis très contente d'être là. Très, très particulièrement contente d'être là. Et je trouve que vous avez des yeux qui brillent tous.
Ah oui, ah. Mais c'est les spots, nous.
Parce que vous avez une forme incroyable, par là, ça mon cher. On peut dire votre âge ?
Et avec joie.
32 ans.
Mais tu oublies par 2,5.
Ah, ouais,
76 ans.
76 ans.
Incroyable.
Je suis la plus âgée de toutes ici.
Ah oui.
Alors, Perla Servan-Schreiber, vous venez nous parler de votre livre, Les recettes de ma vie, 300 recettes, 300 récits. Vous racontez que pour faire la cuisine, justement, vous mettez un tablier blanc et c'est important.
Très important. Je trouve que de se préparer à faire la cuisine, c'est très important. Parce que quand un judoka doit s'entraîner, il a une tenue particulière et déjà, on rentre dans l'état d'esprit de ce qu'on va faire. Et là, je me prépare à rentrer en cuisine.
Alors, c'est pour ça que je n'arrive pas à cuisiner, c'est parce que je n'ai pas de tablier, en fait.
Ah bah voilà. On va t'en offrir un très, très vite.
Voilà, vous êtes d'accord que c'est quand même un appel.
Nu sous un tablier.
Ah non, il faut être... Nu sous un tablier. Non, pas encore.
Non.
Non, non.
Mais vous dites que c'est très élégant. Vous dites que c'est très élégant, un tablier.
C'est très élégant.
S'il est blanc.
Oui, c'est mon habit préféré. Je l'ai fait faire en lin. Je suis très snob. Et j'en change à la moindre tâche.
Ah voilà. Oui.
Vous en avez combien ?
Vous le changez,
je ne suis pas maniaque, mais vous avez combien pour de tabliers ? Les tabliers, oui.
Vous le jetez à la poubelle pour
non,
vous...
non, non, non.
Vous en changez.
Non, non, il y a un truc qui s'appelle un lave-linge.
Ah oui, alors là, je ne connais pas du tout.
Non, non, mais...
Ma femme a essayé de m'expliquer, on s'est engueulé pendant 3 semaines.
Ah, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. À votre âge, vous êtes trop jeune.
Donc, oh,
le tablier, c'est très...
Je vais m'acheter un tablier et votre livre je l'ai, voilà. Et je vais m'acheter un tablier, je vais voir si ça marche sur moi.
Mais c'est sûr que ça marche.
Mais j'ai pas le temps de faire la cuisine.
Mais vous avez remarqué que j'ai fait une couverture rouge parce que vous aimez cette couleur.
Oh, c'est gentil. La cuisine et vous, Perla Servan-Schreiber, c'est une vraie histoire d'amour. Vous racontez, vous êtes née au Maroc à Fès.
Oui.
Et vous racontez votre mère qui était dans une toute petite cuisine où il y avait des braseros par terre. Donc elle vous interdisait de rentrer dans la cuisine. Et vous dites que votre mère faisait la cuisine toute la journée. Oui. Vous étiez 6 ou 7 enfants.
On était, hélas, 6 enfants. Mmh. On était 6 enfants.
Vous étiez la combien tième?
Moi, j'étais le numéro 5 et longtemps la dernière. J'ai cru que j'étais la préférée.
Vous avez mal vécu l'arrivée.
7 ans après, j'ai un petit frère que j'adore.
Mais il n'était pas prévu, j'imagine.
Hein?
Il n'était pas prévu.
Personne n'était prévu.
Non, mais quand on a un enfant, quand on a 5 enfants, et quand
moi,
on a.
Moi, on m'a dit toute ma vie que j'étais un accident. Ben, tout le monde, en fait.
Ah, vous étiez un accident?
Ah oui.
Vous êtes un bel accident par rapport à Sarah
Chabert. Il y avait que des accidents. Il y avait que des accidents. Non, mais c'est vrai. Hein. Ben. Ce mot, je l'ai à l'oreille. Moyennant quoi, j'ai pas fait d'enfant. Parce que j'ai eu la chance d'arriver quand même à un âge où on peut commencer à avoir des amoureux, des vrais amoureux, avec la pilule. Mmh. Et j'ai eu cette chance, à force d'entendre qu'il y avait des accidents, et à force d'entendre ma mère, qui était une femme magnifique, mais elle s'est quand même mariée à 14 ans, elle a eu un premier enfant à 15, et je l'ai entendue toute sa vie dire « Si vous n'étiez pas là, je serais partie.
Oh » oh là là.
Mais ce n'était pas du tout méchant.
Enfin, ce n'était pas gentil non plus quand même.
Non, mais enfin, après, évidemment, ça vous marque un peu.
Oui,
ce
bien sûr,
truc.
Bien sûr.
Voilà, après, on se retrouve sur le divan du psy à raconter ça.
Eh oui, 10 ans. Allez hop.
Une phrase, 10 ans.
10 ans de psychanalyse. Mais ça a marché apparemment, vous avez l'air très bien dans votre peau.
Pas mal, pas mal. Franchement, pas mal. Ça a été douloureux. Parce que d'abord, c'est très cher. Alors, on choisit, mais j'ai choisi. Et non, ça a très bien marché.
Vous avez fait ça à quel âge, une psychanalyse par la Sarah Chabert?
J'ai arrêté à 42 ans. Et pof, 6 mois après, j'ai rencontré mon mari. Bon,
c'est reparti.
C'était un bon investissement.
Passez l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
Le meilleur de Ça fait du bien avec Anne Roumanoff et toute son équipe, jusqu'à midi et demi avec leur invité gourmande, hein, avec son livre de recettes paru chez Flammarion, Perla Servan-Schreiber. Jérémy, une question?
Bah oui, parce que vous faisiez des petits tutos sur Facebook, la Minute oui. Perla, et vous oui. parliez du spleen du dimanche soir, oui. que j'ai tous les dimanches soirs. Quel est le remède?
Mais tu l'as tous les jours, toi.
Ouais, c'est vrai. Ma vie n'est qu'un spleen géant, c'est pour ça que je fais de l'humour.
Bah oui, parce que votre vie, c'est tous les jours dimanche, vous foutez rien.
Vous avez percé à jour, hein, bravo. Perspicace, hein. Et moi, Perla Servan-Schreiber, moi je trouve que quand on est une femme qui réussit, parfois on fait peur à certains hommes.
C'est vrai?
Oui.
42 ans pour le rencontrer quand même, hein?
Ah oui?
Ah oui, oui. Pour mes parents, j'étais définitivement classée depuis déjà à peu près 30 ans dans la catégorie vieille fille.
Oui, enfin, bon, enfin, j'imagine que vous êtes belle comme vous êtes, Perla Servan-Schreiber.
Ah attends, vous avez plein d'amoureux.
Oui.
Oh, j'ai une vie
plus que
formidable.
Christine ou moins, parce que
alors, j'aime bien, j'ai une vie
Christine,
formidable.
Christine, elle a commencé tard, non?
Ah,
oui,
ah non, oui, non, oui, non, parce qu'avant aussi, elle avait...
Ah, bon, 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 ma mère, écoute,
bon, mais elle a rattrapé 10 ans en une semaine.
C'est formidable d'avoir beaucoup d'amoureux. C'est formidable d'avoir beaucoup
d'amoureux. Donc, entre 20 ans et 42 ans, vous aviez beaucoup d'amoureux.
Beaucoup d'amoureux.
Mais aucun qui vous plaisait.
Assez fidèle quand même, des longues histoires.
Oui.
Voilà. Plutôt longue, voilà, entre 4 et 12 ans, le dernier, quand même.
Ah oui, quand même.
Bon.
Pourquoi vous faites la grimace entre 4 et 12 ans avec une grimace horrible?
Non, parce que 12 ans, on se dit, bon, bah, ça y est, c'est pour la vie, vous voyez, mais ouais. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que j'étais très contente en étant seule chez moi. Jamais un homme n'avait eu jusque-là une paire de chaussettes chez moi. D'ailleurs, ça a continué. C'est moi qui ai mis mes collants chez lui quand je suis partie. Et je suis partie une bonne fois pour toutes. J'avais 42 ans. Et ça fait 33 ans bientôt, et la vie est belle.
Oh là là,
oh, c'est beau. C'est,
ça fait rêver.
C'est vrai, hein.
Alors, il y a plein de recettes hein, dans votre livre. Est-ce qu'il y a une recette pour chaque moment de la vie? Et quel plat il faudrait, par exemple, cuisiner quand on vient de se faire larguer?
Alors,
c'est étonnant.
C'est les plats de consolation, ouais. Bien sûr.
Ouais, alors, le gâteau au chocolat.
Alors là, vous pouvez y aller sur la coquillette. Hein.
La coquillette, ouais, quand on s'est fait larguer, la coquillette.
Alors, oui, la coquillette, c'est irremplaçable. Hein. Le gâteau au chocolat.
Ouais. Oui, mais alors après, on devient largué et grosse.
Oui.
Mais
alors
à ce moment-là,
alors c'est-à-dire qu'après vous comprenez pourquoi vous avez été largué.
Vous n'en vouliez plus.
Et quel plat quand on vient de faire l'amour par la Sarah Schreiber?
La raclette. Ah,
alors,
hein?
La raclette. Moi, je mets toujours une raclette après.
Ah bon?
Ah, oui. On n'a plus besoin
c'est
de manger
pratique.
Après.
Il vaut mieux que ce soit après, hein, parce que l'odeur
parce
dans l'appartement.
Avant, après, elle veut plus.
Ah oui. Tu m'étonnes.
Alors quel
non,
plat?
Non, alors après, moi, mais Je trouve que quand même un plat de pâtes délicieux.
Reprendre des forces.
Juste un plat de pâtes.
Quand on vient de se taper l'orteil contre un coin de table.
Ça m'est arrivé hier, c'est juste odieux. Odieux, odieux. Quel plat on mange ? Ouais. Oh ben on boit. Alors là.
Et quand on vient de payer ses impôts, on mange quel plat, Perla Savant-Schreiber ?
Ce qui reste. Hein.
Moi, je vous inspirais quelle pâtisserie, Perla Savant-Schreiber ?
Vous ?
Oui.
Une religieuse.
Ah, non, 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 non. L'île flottante.
Pourquoi ?
Mais pourquoi ? C'est vrai, j'adore. Ah ouais. Parce qu'il y a à la fois une espèce de un volume magnifique et une légèreté formidable. Il y a cette crème anglaise qui est irrésistible et un goût de vanille. Moi, je dirais que vous avez le goût de la vanille.
Oh !
Passez l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
Dans un instant, on retrouve Anne Roumanoff, toute son équipe et leur invité Perla Savant-Schreiber dans les meilleurs moments de Ça fait du bien. Mais avant cela, voici Stevie Wonder, Master Blaster. Belle matinée.
Nobody ever told you to do. We'll be coming until the break goes down.
Faster, Stevie Wonder sur Europe 1 et Anne Roumanoff pendant encore quelques minutes jusqu'au journal de la mi-journée, jusqu'à midi et demi, avec leur invité qui nous met l'eau à la bouche. Elle vient de publier un livre de recettes, Les recettes de ma vie, Perla Servan-Schreiber.
Alors, vous dites qu'il y a 10 commandements pour découvrir le bonheur de cuisiner, Perla Servan-Schreiber. Être exigeant sur la qualité des produits, être chic avec un beau tablier blanc, être informé de la recette. Parce que vous dites, la recette en entier, tu liras avant de décider de ton choix. Puis avant de commencer à la faire, tu la reliras.
Oui, pour une raison très simple. Si vous n'alignez pas vos produits devant vous, vous vous rendez compte au moment de mettre la levure que vous n'avez pas de levure. Voilà, c'est fichu. Donc, vous avez déjà touillé les œufs, les trucs, les machins, la farine. Et puis, pof, elle n'a pas de levure.
Donc, il faut être organisé, précis, attentif, créatif, concentré. Et vous dites, ton portable, tu arrêteras. Et la musique, si tu aimes ça, t'accompagnera.
Oui. Parce qu'il y a pour moi quelque chose, n'ayez pas peur du mot, qui est assez spirituel pour moi dans la cuisine. Parce que je suis vraiment face à ce que je fais et donc avec moi-même, après des journées qui sont quand même assez rock'n'roll encore, bien que je sois à la retraite officiellement depuis 3 ans. Et là, il y a une concentration formidable et je ne suis plus en lien qu'avec ce que je fais.
Donc c'est vous, la cuisine, c'est un plaisir, une détente, un accomplissement.
Mais c'est une nécessité.
Vous ne pourriez pas passer une journée sans faire la cuisine, par exemple?
Non.
Alors que moi, je peux passer un mois sans faire la cuisine.
Mais par contre, quand je suis en voyage, j'adore. J'adore être à l'hôtel, j'adore être, découvrir des lieux.
Vous avez même un petit-fils qui a fait l'école hôtelière de Lausanne et qui a créé un restaurant à Paris pour Thierry Marx.
Oui, absolument. J'ai mon petit-fils, l'aîné, Arthur, qui a un talent fou. Et
vous lui avez transmis des choses?
Il dit ça. Oui. Il dit ça.
Vous dites, que les femmes cuisineraient plus si elles savaient à quel point c'est important pour garder un homme?
Ah oui. Non, mais c'est évident. Mais parce que faire la cuisine, c'est beaucoup plus que faire à manger. C'est pas seulement faire à manger. Moi, j'ai le sentiment de transmettre le meilleur de moi-même quand je fais la nourriture. Parce que bien sûr, il y a les ingrédients. Mais je crois que mon ingrédient modestement essentiel, c'est la joie que j'y mets. Je mets de la joie dans ma nourriture parce que j'aime faire la nourriture. Donc, ça passe et ça passe formidablement.
C'était ça le secret. Oui, pour garder quelqu'un.
Oui, pour garder quelqu'un.
Est-ce que tu fais la cuisine,
pas
toi?
Pas du tout. Je passe mon temps à me faire livrer ou aller au restaurant.
Non, c'est quand même dommage. De temps en temps, faites-le de temps en temps. Je dis pas que
Jean-Philippe, vous faites la cuisine?
Moi, c'est comme ça que j'ai séduite ma femme. Elle était à la maison et j'ai fait des cuisses de canard confit avec des pommes de terre. Elle a adoré. Et un fondant au chocolat.
Tu
elle
sais
a adoré.
Faire ça, toi?
Elle a pris 4 kilos.
Oui, le fondant après le confit, c'est peut-être...
C'est en calories, voilà.
C'est pas grave.
On risque pas de malaise.
Alors moi, je m'inscris en faux, parce que moi, je cuisinais par là. J'ai même pris des cours de cuisine, mais à table, il ne me parlait pas. Mon ex, à table, il ne me parlait pas. Je cuisinais, je passais du temps à cuisiner, et après, à table, on n'avait pas de conversation.
C'est votre ex.
Voilà. Ah, elle est incroyable, elle a raison pour tout, c'est fou.
Christine Béroux a des choses à vous dire par la Servan-Schreiber.
Comme vous pouvez le constater, à la fois, je suis très heureuse de vous voir, et à la fois, je lutte, pas très bien pour céder à mon envie, qui est de vous raconter mes problèmes depuis tout à l'heure, parce que quand on est en face de vous, on n'a qu'une envie, c'est que vous payez comme ça votre tournée de bons conseils, on a envie de tout savoir, votre expérience et tout. Mais parlons plutôt de votre livre, Les recettes de ma vie, 300 recettes, 300 récits. Non, parce que je viens de me séparer, en fait, de mon compagnon, parce que je ne l'aimais plus. Et alors, s'il y avait eu vraiment un plat ou un aliment pour retrouver, vous savez, la passion des débuts, je l'aurais pris. Je me suis renseignée, ça existe, ça s'appelle le GHB. Mais c'est très difficile de s'en procurer. D'ailleurs, il n'y a aucune recette dans votre livre. Mais revenons à votre ouvrage, où chaque recette s'accompagne d'un récit, ce qui en fait un livre de cuisine très personnel. Et paradoxalement, vous vous livrez sans qu'on ait besoin de vous cuisiner. Bien. Et d'ailleurs, reparlons un peu...
Elle est polie parce qu'elle sourit, en plus.
Reparlons un peu de ma rupture. Parce qu'en fait, non, j'ai lu dans Psychologie Magazine qu'il fallait pardonner. Vous savez, envoyer les gens dans la lumière. C'est ça qu'il faut faire.
Envoyer les gens dans la lumière.
Dans la lumière, oui, c'est ça. Il faut... Du coup, j'ai envoyé mon ex dans la lumière des flammes de l'enfer. Et je ne me sens pas forcément mieux, donc...
Vous avez lu ça dans Psychologie.
Non, j'ai réadapté. Perla, on a en commun l'amour des légumes. Moi, j'ai même associé mon amour des légumes à mon amour de la musique. Est-ce que vous voulez entendre mon hit « On a tous en nous quelque chose de salsifis »
Ah oui.
Peut-être plus tard. Voilà. Et en parlant d'amour, vous parlez du riz à la sicilienne. Vous dites que c'est ce qu'ont mangé Claudia Cardinale et Alain Delon avant de tomber fou amoureux dans le film Le Guépard. Du coup, j'ai décidé d'apprendre cette recette et je la ferai lors d'une émission la prochaine fois quand on recevra au hasard Julien Doré. Voilà. Non, parce que le juge m'a interdit de l'approcher à moins de 100 mètres. Il m'a pas interdit de lui cuisiner du riz. Voilà. Mais vous parlez aussi beaucoup dans ce livre de pâtes, de pain, de gâteaux. Donc je vais l'offrir à mon ex-belle-mère, comme elle est allergique au gluten. Voilà, vous dites de la brioche, que c'est peu d'efforts et beaucoup de beurre. Et je confirme, JP, il a une petite brioche, c'est beaucoup de beurre et beaucoup et peu d'efforts.
Je suis en train de la perdre.
Alors c'est trop mignon parce que vous avez créé un dessert pour chacun de vos petits-enfants. Moi, je pourrais créer un dessert pour chacun de mes ex parce que dans ma vie, j'ai connu pas mal de cakes et de flans. Là, je cherche une crème. Voilà. Ou un, ou un financier. Par là, il y a juste une recette qu'il manque dans ce livre et pourtant, c'est la recette que vous maîtrisez le mieux. C'est la recette de la jeunesse éternelle. La cuisine vous va bien, par là. La preuve, quand on est avec vous, on savoure chaque minute. Merci de m'avoir écouté avec votre si beau sourire. Oh. Vous mettez du soleil dans mon cœur.
Elle est formidable. Vous voyez que quand on parle de cuisine, on parle de soi.
Et d'amour.
Et voilà.
Le meilleur de Ça fait du bien avec Anne Roumanoff et toute son équipe revient demain. C'est le programme tout l'été de 11h à 12h30 sur Europe 1. Alors demain, le casting sera sympa aussi avec Isabelle Carré, Bernard Campon, Jérémy Frérot, Catherine Ney et Harry Habitant. Restez avec nous dans un instant, le journal de la mi-journée.